Salut. Est-ce qu'il y a le journalisme à la papa et le nouveau journalisme? Est-ce que ce journalisme pratiqué sur le web, sur les réseaux sociaux, c'est vraiment du journalisme? C'est sûrement des questions de journalistes, ça. Mais elles sont au cœur, je pense, de la mutation que vivent les médias. Nouveau, tout beau, ça te dit quelque chose? Aurélie Cutat travaille pour ces deux formats dédiés aux réseaux sociaux de la RTS, des petites vidéos courtes avec du texte qu'on se partage comme des bonbons. Aurélie, petite trentaine d'années, est donc au cœur de ces nouveaux usages journalistiques qui sont critiqués ou encensés. Son job aujourd'hui se mesure en nombre de vues, de commentaires et de partages. Comment elle le vit? C'est ce que je vais lui demander.
Allô?
Salut Aurélie, ça va?
Salut, ça va et toi?
Oui. Est-ce que je te stresse pas trop en t'appelant maintenant?
Ça va, je vais y arriver, je vais arriver à te répondre, je crois.
T'es en train de faire quoi? T'es où là?
Je suis à Genève. J'ai la vue sur le Jura et je suis en train de finir ma semaine qui a été un peu compliquée et on vient de diffuser le Tout Beau, notre chronique hebdomadaire. De bonnes nouvelles et du coup là c'est un peu le on souffle un peu un tout petit peu avant de déjà commencer la prochaine. C'est ce que je dois faire cet après-midi.
Et justement, le boulot que tu es en train de faire aujourd'hui pour Nouveau, est-ce que ça correspond au rêve que tu avais quand tu étais petite et que tu voulais être journaliste?
Ah non non je voulais pas vraiment être journaliste mais ça c'est une autre histoire. Du coup je suis devenue un peu par hasard et ça correspond en rien à ce que je voulais faire. Je voulais être actrice, faire du théâtre. Donc il y a un petit côté quand même, il y a quelque chose qui se rapproche quand on se retrouve dans la rue de Genève et qu'il faut parler devant une caméra, devant des gens qui regardent, mais sinon il y a pas grand-chose qui se rapproche de ce que je voulais faire au départ.
Donc, tu voulais être comédienne. À partir du moment où tu as envisagé d'être journaliste, c'était quelle sorte de journalisme que toi tu visais, que tu idéalisais peut-être même?
Ben moi j'ai toujours bien aimé l'infotainment et en gros ce qui est de l'ordre de à la frontière entre l'info et le divertissement. J'aime bien jouer avec cette frontière, j'aime bien que les gens enfin moi je pars de ce que j'aime consommer comme information et j'aime bien quand on me raconte l'actualité de manière plutôt ludique, parfois sérieuse aussi, mais en tout cas où on m'amène on essaie de me prendre par la main, voilà. C'est ça que j'aime bien. Et c'est ce que j'essaie de faire, en fait. Et là, je suis assez fidèle à ce que j'aime consommer.
C'est ce que tu essayes de faire quand tu fais justement peut-être la chronique Tout Beau, où tu donnes les bonnes nouvelles de la semaine. C'est aussi ce que tu essayes de faire quand tu fais les petites vidéos, celles qu'on se partage, qu'on consomme et qui sont finalement assez vite oubliées.
Ouais, c'est vrai qu'elles sont parfois vite oubliées. C'est vrai qu'il y a quelque chose d'un peu qui peut être un peu frustrant hein, quand on le fabrique. On fait des objets, il faut que ça soit pop, que ça soit comment dire, que ça aille vite chercher celui à qui on s'adresse sur les réseaux. Il faut que ça pète dans la ligne, dans le fil d'actu, sinon on n'attrapera pas nos potentiels auditeurs et spectateurs. Et puis en même temps, tout ça s'oublie à une vitesse grand V. Et ben nous, on subit aussi ce sort-là, évidemment.
Est-ce que ça va quand même trop vite ou c'est ta vitesse finalement à laquelle tous ces objets comme tu les appelles, ces vidéos, la manière de travailler, est-ce qu'il y a un moment où ça va trop vite ou c'est à la bonne vitesse?
Parfois, ça va un peu vite. Enfin, moi, là où je trouve que ça va trop vite, c'est dans le temps qu'on a pour empoigner le sujet. Parce que finalement, tout va très très vite. Les réseaux sociaux publient des vidéos. Enfin, les médias qui sont présents sur les réseaux sociaux publient des vidéos dans l'heure, les 2 heures qui ont suivi un événement. Et parfois, justement, nous, on essaie, en discutant et en confrontant nos opinions en équipe, de tout à coup se dire non, mais là, il est brûlé pour nous, journalistes, qui consommons les journaux comme de la drogue et qui, en fait, forcément, avons déjà vu passer le sujet 3 fois, etc. Mais en fait, pour les gens à qui on s'adresse, qui parfois ne suivent pas 1 000 autres plateformes de médias sur les réseaux sociaux, ben non, le sujet n'est pas brûlé et il peut être tout à fait intéressant, quitte à même l'enrichir autrement.
Donc toi, tu produis ces infos, ces vidéos à destination des réseaux sociaux. Toi, dans ta vie personnelle, quotidienne, comment tu consommes l'information? À haute vitesse aussi, ou bien T'essayes de prendre un peu de recul.
Bon, moi, je regarde évidemment ce que font les gens qui sont nos concurrents, si on peut dire, à l'étranger, qui font les choses, des choses qui ressemblent à ce qu'on fait, Edgy+, Brut, Combini, Quotidien, etc. Et je regarde tout ça avec toujours un œil un peu de travail. Je me distrais pas vraiment. Il y a toujours une pensée qui se dit, ah tiens, ils l'ont fait, ça aurait été chouette. La Brut vient de faire quelque chose sur la fessée. Je trouve que c'est une chouette problématique, fessée interdite, etc. Et j'ai toujours un œil ouvert de professionnel qui se dit j'aurais dû le faire, j'aurais pas dû le faire. C'est pas très reposant, effectivement. Donc quand je veux décrocher, je vais plutôt vers le long. Pas forcément le papier, mais ça peut être du papier. Je lis pas mal de magazines, je regarde énormément de documentaires, 52 minutes, etc. Donc ça a rien à voir avec ce que je fabrique. Mais j'adore ça. J'adore le long, j'adore le court, tout ce qui est de cet ordre-là, en fait, c'est... Effectivement, ça peut être tout et n'importe quoi. Il y a quelqu'un qui vient de faire la sieste à côté de moi.
Ça veut dire que toi, tu te sens particulièrement bien aujourd'hui dans cette époque, que le stage traditionnel ou les premières années traditionnelles telles que peut-être le public les envisage encore ou que certains de tes collègues le vivent, c'est-à-dire... de passer en médias régionales, d'aller voir les gens, de revenir avec un reportage qui passera peut-être 3 jours après, etc., etc. C'est quelque chose qui te manque, qui te ferait envie. Comment toi, t'as besoin de ce rush, on sent, quand tu racontes.
Ouais, bon, mon époque, elle est un peu, enfin, quand tu dis mon époque, elle est un peu faite de tout ça, elle est faite, pour moi, les médias régionaux ont encore un énorme pouvoir et peut-être toujours plus une énorme place. Et quand moi, je me sens très... Alors, pour revenir à ta question, ouais, je me sens hyper bien avec mon époque, celle qui va vite, celle où, voilà, il y a quelque chose qui se passe. 2 minutes après, on a la vidéo, on tweet, on a le hashtag. Ouais, j'ai aucun problème avec ça et je trouve que c'est assez pratique pour s'en sortir. Et je suis assez à l'aise avec ça. Je me sens pas dépassée, en tout cas.
José, heureusement qu'il y a eu hashtag MeToo pour que les hommes se rendent compte de la violence faite aux femmes.
Hashtag réseaux sociaux, novembre 2018.
Je me suis bien marrée en écoutant les propos du menteur dirigeant. En quoi égalitaire ?
Barbara, mais bien sûr, c'est toujours une grande surprise. Surtout quand on ne peut plus cacher des faits même gravissimes, pourtant reportés sains de la hiérarchie et des RH depuis un moment.
Marie-Claude, grand merci à ces courageuses jeunes femmes.
Pas facile de dénoncer ces pratiques dans un contexte aussi exigeant et compétitif.
Aurélie, toi tu disais tout à l'heure, c'est une drogue, hein. Tu disais je me nourris, etc. Ouais. T'arrives à revenir sur cette notion-là de drogue, vraiment comment tu le sens à travers toi, ton corps, quand il y a pas, quand tu bosses pas, presque quand tu bosses pas, ça va pas ?
Ouais.
Bien si.
Non, mais disons, quand je bosse pas, je lis l'actu, je regarde le 19h30, je passe un temps fou à lire d'actu, même dans ma chambre d'hôtel au fin fond de la Birmanie, quoi. C'est comme ça. J'ai toujours fait ça. Et en fait, je faisais ça bien avant d'être journaliste. Et peu importe où je suis, j'ai toujours voulu savoir ce qui se passait ici. Quand je dis ici, c'est Suisse romande, Europe centrale, ce coin-là, quoi. Et en ça, moi, en ces termes-là, c'est une drogue, quoi. Ouais, c'est vrai. Après, j'arrive quand même à m'en passer 2-3 jours. Hein. Je suis pas non plus.
C'est pas très long, 2-3 jours.
Ouais,
hein.
C'est pas très long, mais je sais que des fois, 2-3 jours, ça fait longtemps plus, mais une journée ou deux, ça m'arrive. Ouais. Et après, j'ai enlevé, par exemple, tu vois, quand tu parles de drogue, j'ai dû enlever toutes les notifications. Les push, etc. Parce que on peut aussi facilement être noyé et puis interrompre n'importe quelle conversation avec un vrai être humain parce qu'il s'est passé quelque chose et qu'un ministre français obscur a démissionné. Et puis non, il faut pas en être. Enfin, moi j'ai pas envie d'en arriver là, donc j'ai un peu sélectionné les push que je trouve importants. Et puis voilà, je me suis désabonné de certains médias privés qui push pour tout et n'importe quoi. Ça, c'est déjà une...
Ça veut dire qu'en enlevant ces pushs, en enlevant ces notifications, pour toi, c'est une sorte de protection, t'as essayé de te protéger de quelque chose qui interférait trop sur ta vie privée?
C'est un problème de journaliste, je crois. On a tendance à trouver que tout est hyper intéressant. Voilà, il y a une nouvelle fourmi qui apparaît en Argovie et on se dit, mon Dieu, il y a une nouvelle fourmi qui apparaît en Argovie. Et il faut parfois un petit peu de recul et je trouve que d'avoir des pushs Les pushs, c'est assez invasif quand même. Ça fait de la lumière, ça fait parfois du bruit. Et si on est en train de causer, ben on va forcément regarder notre téléphone pendant 5 secondes. Pas forcément cliquer, mais ça a déjà créé une interruption. Et moi, j'ai envie de savoir, j'ai envie d'être au courant tout de suite s'il y a des attentats dans une ville d'Europe, un conseiller fédéral démissionne. J'ai pas envie de savoir tout de suite qu'il y a une nouvelle fourmi en Argovie. Voilà, je peux dire comme ça. Et effectivement, tout va plus vite. Ce qu'il faut juste faire gaffe, en fait, c'est que plus on va vite, généralement dans tous les métiers, plus on fait des conneries. Donc, moi, c'est surtout ça à quoi je tiens. C'est-à-dire qu'il faut, créer parfois artificiellement un petit retard, comme ça, un petit délai avant de sortir une news, etc., pour juste être sûr de ce qu'on fait, comment on le fait. Est-ce qu'on ne se met pas dans la misère parce que finalement, on va dire n'importe quoi trop vite.
C'est une vraie peur, celle de faire une faute. Et est-ce que tu en as déjà faite?
Ah oui, j'en ai déjà faite, ouais.
Tu nous racontes?
Oui, j'ai fait une vidéo à nouveau sur la réforme des retraites. Et il y avait non pas une, mais deux erreurs de chiffres. Et la réforme des retraites en Suisse, c'était un sujet délicat. Et je sais que j'ai mis beaucoup de gens au-dessus de moi dans l'embarras. Et on m'a soutenue, j'ai pas eu de soucis, mais les messages de réclamation nous sont parvenus en nombre. Et il a fallu changer, il a fallu tout simplement retirer la vidéo, ce qui est assez rare, ce qu'on fait assez rarement. Disons qu'on passe une sale journée, quoi. Ah, j'ai fait une autre erreur qui était plus drôle. J'habite à Lausanne, je vais très souvent à Fribourg parce que j'y ai de la famille et j'ai confondu les cathédrales dans une vidéo. Voilà. Je parlais de Lausanne et j'ai mis une image de la cathédrale de Fribourg. Et là aussi, c'est des petits détails comme ça qui font que les gens, à raison, s'enflamment. On ne peut pas être un service public suisse et suisse roman et confondre les cathédrales. Et voilà, quand on le fait, on se fait remettre à notre place sévèrement et après on fait gaffe à tous les détails, mais malheureusement il y a quand même toujours quelques trucs qui nous échappent.
c'est peut-être intéressant de revenir aussi sur ces histoires de conneries ou d'erreurs qu'on peut faire quand on est fait sur les réseaux sociaux, parce que la dimension, elle est énorme au niveau de la caisse de résonance. Les gens ne se rendent peut-être pas compte parce qu'ils mettent leurs propres commentaires, mais les commentaires s'accumulent. Est-ce que tu arrives à nous décrire quand ça arrive, en fait? Tu as la première alerte, qu'est-ce qui se passe dans ta tête et qu'est-ce qui se passe dans ton ventre?
Alors nous, il y a toujours un moment spécial dans le bureau où notre social media manager, qui s'occupe de traiter tous les commentaires sur les réseaux, dit comme ça, un peu naïvement, « Qui a fait la vidéo sur les retraites ?» Et là, on sait que ça ne va pas être pour nous complimenter, parce qu'on se fait rarement complimenter sur des vidéos sur les retraites. Donc, ça, c'est le début. Et là, ça se noue à l'estomac. Enfin, l'estomac se noue, c'est genre... Ça fait un glups. On sait que ça va être notre fête, en fait. Et souvent, c'est le cas. C'est-à-dire que quand il y a une réclamation... Quand on parle d'une vidéo, quand les gens s'écharpent dans les commentaires d'une vidéo, c'est souvent parce que... Ils pensent qu'il y a une erreur. Ça ne veut pas dire qu'il y a forcément des erreurs factuelles. Parfois, on nous reproche de faire des erreurs et... Elles sont pas faites, mais de temps en temps ça arrive. Et là, on sait que la grande machine, sur un sujet aussi tendu, que la machine va se mettre en place. C'est-à-dire que moi, je dois donner l'information en tant que journaliste. Je dois vérifier mon information. Je me suis rendu compte très tôt qu'il y avait une erreur. Et après, il faut que mes chefs défendent. En l'occurrence, là, il y avait des attaques de syndicats, sauf erreur, etc. Donc, il faut répondre à qui de droit avec des belles lettres et des belles formules. Et tout ça, ben, c'est pas moi qui fais, mais je sais qu'on doit faire ça à cause de moi. Et je sais qu'on doit faire ça parce que j'ai pas fait la vérification qu'il fallait à 19h30 avant de publier ma vidéo. Et voilà, c'est comme dans n'importe quel taf quand on se rend compte qu'on a cassé un truc, quoi.
Et on se remet comment de ça, en fait? En repartant tout de suite au travail, en refaisant une. Quelles sont maintenant les petites alertes que tu te fais, toi?
Ben, je vérifie encore plus qu'avant, ça c'est sûr. Je vérifie, je demande, je contrôle. Je me sens aussi plus à l'aise de poser des questions à mes collègues quand on se montre notre travail avant de le publier. Peut-être qu'au départ, j'étais un peu gênée si j'avais un doute. Je ne les connaissais pas hyper bien. Je me disais, bon, il doit savoir ce qu'il fait. Maintenant, si on a le moindre doute, on dit non, ce chiffre, il me paraît trop énorme, ce chiffre, il me paraît trop gros, non, moi, j'y crois pas. C'est mal dit parce que là, on comprend autre chose que ce que tu veux dire, etc.
La différence entre ton travail et peut-être celui d'un collègue qui travaillerait pour la radio ou la télé, c'est que toi, ton objectif, c'est de publier sur ces plateformes. Tu travailles aussi avec cette chronique hebdomadaire où tu vas plus loin que tes autres collègues même de nouveau, c'est-à-dire que on te voit, c'est toi qui incarne cette chronique qui s'appelle Tout Beau. C'est prendre un risque aussi, hein. C'est prendre un risque parce qu'on sait que les internautes sont cruels. Quand tu publies ta vidéo Tout Beau comme tu vas faire tout à l'heure, est-ce qu'il y a aussi un petit truc à l'estomac en se disant ah, comment ça va se passer?
Ouais, et ça, tu vois, j'arrive pas du tout à m'en défaire, le truc à l'estomac, c'est-à-dire que elle est publiée depuis une certaine période le samedi à 20h. Je peux faire n'importe quoi le samedi soir. Vers 21h, 22h, je vais aller voir juste comment elle démarre, le démarrage. Souvent, si on a des commentaires vraiment très négatifs, ils arrivent tout de suite. Et si on s'est monstrueusement planté, ils arrivent tout de suite. Voilà. Et ça, j'arrive pas à m'empêcher de le faire. Et j'arrive pas non plus à m'empêcher de le faire avec un peu l'estomac noué. Ça, c'est vrai. J'aimerais bien. J'aimerais beaucoup. Après, je me suis beaucoup calmée. Je surveille pas non plus toute l'évolution. Je peux passer tout le dimanche sans aller regarder, etc. Hein. Mais le démarrage d'une vidéo, peu importe quelle qu'elle soit, mais encore plus si je l'incarne. Ce qui me fait toujours peur, c'est quand on c'est quand on me trouve pas drôle, ça j'aime pas, parce que j'essaie pas non plus d'être drôle, mais j'essaie d'amener un truc un peu plus léger dans cette chronique. Et puis si on me dit putain, elle se croit drôle, bah c'est raté en fait. Voilà, j'ai l'impression d'avoir raté ce que j'essaie d'amener dans cette chronique, l'essence de cette chronique, c'est-à-dire amener des infos positives de manière légère. Et ça, c'est un commentaire qu'on a déjà eu et je le vis pas très bien. Voilà.
Une fresque érotique vient d'être découverte à Pompéi. Elle a été retrouvée presque intacte dans ce qui devait être une chambre à coucher.
Nouveau, Tout Beau, sur Facebook et les réseaux sociaux depuis 2 ans.
Alors je t'explique. Elle, c'est la reine de Sparte, Léda, et elle est en train, là, devant vos yeux, de se faire chatouiller le frifri par Zeus. Zeus, dans le mythe grec, il s'est transformé en cygne pour séduire la reine Léda.
Aurélie, il y a une part de subjectivité que toi, tu assumes et que tu revendiques par rapport à ce que tu fais et la manière dont tu fais du journalisme.
Oui. Moi, le journalisme tel que je l'entrevois, tel que je le conçois, ça ne doit pas forcément être purement objectif. C'est-à-dire qu'il faut parfois assumer un point de vue. De toute façon, il y a un point de vue. Enfin, c'est de toute façon moi qui vais chercher les nouvelles que j'ai envie de défendre, m'y intéresser, les développer, etc., les écrire. Donc déjà dans le choix, dans la ligne, il y a de toute façon quelque chose de subjectif. Après, là où ça nous fait rire, nous, à nouveau, c'est qu'on nous, on nous traite souvent de bobos gauchistes, de véganes, etc. De un, il n'y a pas un vegan chez nous, mais ça, c'est pas grave. Et de deux, on n'est pas tous des bobos gauchistes. Il y a certains qui votent très à droite dans l'équipe. Donc en fait, on nous reproche des choses qui sont parfois pas tout à fait en adéquation avec ce qu'on est et avec le journalisme qu'on fait. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'on a souvent un point de vue et on pense qu'en prenant les gens en une minute pour faire de la brève complètement objective, ben, y a plein d'autres gens qui le font sur Internet. Et que nous, on a envie d'amener autre chose, d'amener une petite réflexion, une petite provocation, etc. On pose souvent une question à la fin qui va amener notre spectateur à tout à coup se poser une question sur lui, sur ce qui l'entoure, en lien avec ce qu'on lui a dit. Donc, tout ça, c'est déjà, ça, parfois poser des questions, c'est déjà subjectif, mais je crois qu'on essaie de l'assumer. Et en fait, on aime bien utiliser le mot éditorialiser, quoi. C'est-à-dire qu'il y a une patte, c'est vrai, on reconnaît le ton.
Est-ce que toi, tu te sens engagée dans les vidéos que tu fais, dans les choix que tu fais? Parce que tu as envie plutôt de défendre la cause environnementale, celle des réfugiés, celle des pays plutôt pauvres. Est-ce que tu sens au fond de toi qu'il y a cet engagement-là et que tu essayes quand même de le faire percevoir?
Non. Non, moi, j'assume complètement le fait de faire un journalisme subjectif, mais pas un journalisme engagé, parce que je suis pas engagée, en fait. C'est-à-dire que je m'intéresse à des choses qui, j'ai l'impression, intéressent ma génération, et ça peut être... Et j'essaie d'ouvrir tout le temps, et c'est pour ça que journaliste, c'est un métier chouette, c'est que t'es obligé d'ouvrir un peu tes œillères. C'est-à-dire que nous, on s'intéresse autant à la cause des réfugiés que la start-up avec trois jeunes qui sortent de HEC et qui se lancent dans une nouvelle start-up à Genève, je veux dire. Et là, c'est pas un sujet de gauchiste. Et donc, j'ai l'impression qu'à gauche ou à droite, on s'intéresse à beaucoup de choses qui dépassent le clivage politique. C'est vrai que l'environnement peut-être fait exception, c'est-à-dire qu'on a peut-être une sensibilité, mais ça doit être générationnel, une sensibilité environnementale qui est spécialement développée peut-être. Mais encore, à ça fait pas de nous des journalistes engagés. Hein.
Ouais. Si dans 6 mois, t'en as marre, est-ce que t'es capable, toi, de quitter pour aller voir un autre ailleurs et pour tenter d'autres choses? On dit de cette génération, de la tienne, que quand ça va plus, on peut passer à autre chose, et puis on passe à autre chose, puis on arrête de s'enferrer dans un truc qui va nous traîner toute la vie. Est-ce que toi, tu te sens aussi comme ça?
Ben, j'ai 30 ans et j'ai déjà fait plus ou moins 3 métiers complètement différents. J'ai été technicienne lumière à l'Opéra de Genève, au Grand Théâtre de Genève, pendant 3 ans. J'ai complètement changé la donne parce que je trouvais que ça n'avait plus de sens ce que je faisais. J'ai complètement changé d'orientation. J'ai fait du journalisme, j'ai fait de la radio. Je trouvais que ça avait du sens. Je trouve que ce que je fais maintenant a beaucoup de sens. Et typiquement, enfin, là où je me pose beaucoup la question, c'est notre rapport aux réseaux sociaux. Qui décide de notre contenu des vidéos? Si Facebook devient trop envahissant, si on a l'impression qu'il faut juste payer pour être vu dans l'algorithme, si on a l'impression que on est censuré encore plus que maintenant, je pourrais trouver que ça a moins de sens et je pourrais tout à fait décider, mais alors à peu près en 3 semaines, de faire autre chose. Et c'est moi, ça peut faire peut-être peur à d'autres générations, mais effectivement, enfin, moi, j'ai l'impression qu'il faut que ça ait du sens et que si ça en a pas, mais pas genre, on peut pas se dire j'attends 2 ans voir si ça en aura. Moi, j'ai besoin que ça ait du sens dans le mois qui vient. Voilà. Et si ça en a pas, ben, je ferai autre chose. Mais c'est, moi, j'ai besoin que mon métier serve à quelque chose. J'ai besoin que mon métier ne soit pas un bullshit job et que, à la fin de ma journée, j'ai l'impression, en tout cas, parce que ça peut être qu'une impression, d'avoir servi à quelque chose.
Et le rapport aux collègues, en fait, tu incarnes, que tu le veuilles ou non, une forme de nouveau journalisme. Celui qui, justement, a accès et produit pour les réseaux sociaux, c'est en train de tourner hein, un peu, mais il y a encore récemment, vous étiez vus plutôt comme des ovnis. Est-ce que tu as besoin, pour toi, d'avoir une certaine considération de leur part, du fait que, bah oui, t'es aussi une journaliste, quoi.
Voilà. Ouais, c'est hyper intéressant parce que j'ai l'impression, effectivement, qu'il y a quelque chose qui est en train de se produire à ce niveau-là. On n'est plus les petits genoux accrochés sur leur smartphone qui trouvent que nous, les vieux, on est ringards. On commence à devenir, j'ai l'impression, une génération alliée et à refaire un peu j'ai l'impression que cette scission s'apaise, en fait. Je sais pas si c'est l'euphorie du moment qui me fait dire ça, mais j'ai l'impression que en tout cas on est considéré à notre juste valeur, à égalité en fait, par nos collègues, et qu'on incarne, c'est vrai, peut-être une autre forme de journalisme, même si moi je reste assez persuadée, et c'est pas pour brosser dans le sens du poil de mes collègues plus âgés, mais je reste vraiment persuadée que fondamentalement on fait le même boulot, quoi. Ça, c'est évident, et que tout le reste c'est l'emballage en fait qui change, c'est la production, etc. Moi, ce que je pense, c'est que le journalisme, c'est un terreau hyper fertile pour créer des scissions entre les générations, parce qu'on a l'impression de travailler vraiment de manière différente. Et moi, c'est tout ce que je veux pas, en fait. J'adorerais une fois faire une chronique, un duo avec une journaliste de 60 ans et qui me montre sa manière de voir le métier. J'adorerais faire ça. Et je trouve qu'il faut pas non plus faire du jeunisme, s'enfermer entre nous en se disant « Ouais, nous, on est quand même plus cool, quoi. Et les vieux, ils ont rien compris. » Non, les vieux, ils ont fait tourner cette boîte et les médias en général pendant 40 ans avant qu'on arrive. Donc, ben, en fait, c'est peut-être juste bien de savoir comment ils ont fait, quoi, je trouve.
Si tu veux davantage t'immerger dans le média-univers d'Aurélie Cutat, tu trouves Nouveau sur tous les réseaux.